Voilà, donc merci à vous d'être présents parmi nous aujourd'hui pour recevoir le prix Goncourt 2008. Atik Ranimi pour son livre donc paru chez POL, Singe Sabour, Pierre de Patience. Atik Ranimi, bonsoir.
Bonsoir.
On est très heureux de vous recevoir. Alors pour débuter cette rencontre, j'ai envie de vous demander si les livres, si vos livres sont des lueurs d'espoir et quand un prix, en l'occurrence le prix Goncourt, donne un éclairage public, est-ce qu'on l'on se sent reconnu, est-ce qu'on l'on se sent entendu surtout et sans l'espoir venir.
En ce qui me concerne, bah oui, c'est donc pour moi c'est un signe de reconnaissance, évidemment. Je suis fier et je suis touché par rapport à tout ça et de voir aussi une académie telle que Goncourt s'intéresser à ce livre. Et lui donner le prix Goncourt, il dit ouais, ça aussi le fait d'avoir lu et compris justement ce que je ressens par rapport à la condition humaine dans le pays tel que l'Afghanistan. Ils ont compris tout ça, oui, ça me touche énormément.
D'autant plus que vous expliquez à travers ce livre, à un moment donné, que tout le monde n'a pas droit au bonheur, que ce soit dans les livres ou dans la vie.
Bah écoutez, je crois que ce n'est pas propre à l'Afghanistan. Je crois que c'est tout au long de l'histoire humaine, on voit ça. C'est dans toutes les tragédies, même dans toutes les comédies même, c'est toujours le bonheur des uns engendre le malheur chez les autres. C'est une réalité. Vous savez, tout au long de l'humanité a essayé justement de rêver justement d'un pays ou d'une société où tout le monde peut avoir accès au bonheur et à tout ça, mais on a vu que même l'idée, même cette idéologie a engendré des monstres dans l'histoire humaine. Donc, malheureusement, c'est une réalité humaine qu'il faut accepter. Et c'est comme ça.
Une réalité que vous transcendez aujourd'hui à travers vos mots, à travers votre poésie. Alors, on est aujourd'hui mercredi. Nous, c'est un bonheur, un honneur de vous recevoir. Contrairement, finalement, à votre livre, où le mercredi, c'est pas tellement un bon jour. Vous dites, à un moment donné, vous écrivez, c'est un jour de malheur où on ne peut pas pratiquer la saignée, ni donner, ni recevoir.
Oui, ça, c'est dans la pensée populaire. Donc ça, d'ailleurs, c'est pas moi, parce que ça c'est quelque chose qu'on entendait toujours en Afghanistan, mais un peu partout. Les 7 jours, à chaque fois, le mollah parlait justement des spécificités de cette journée. Donc, le mercredi, bon, voilà, c'est une journée de oui. D'ailleurs, j'ai déjà oublié ce que
la journée de malheur, pas de saigner, pas donner, pas recevoir.
Oui, ce sont des pensées donc que ça existait dans les livres comme ça, des pratiques religieuses, etc. Donc c'est oui, ça en Afghanistan, j'entends toujours à midi notamment. On entend lorsque le mollah prêche les hadiths ou le Coran. Donc, il y a des trucs comme ça. On entend tout le temps.
Alors, finalement, pour votre héroïne.
Je ne sais pas si vous êtes sûr comme ça.
Pour votre héroïne féminine, peu importe le jour, parce que finalement, elle vit tous les jours au souffle de son mari devenu un cadavre vivant. Et finalement, elle se laisse aller dans les recoins intimes de ses souvenirs, se raconte et nous raconte sa vie, ses émotions, ses chagrins, ses peurs, son désespoir.
Oui, bah écoutez, ça c'est vrai qu'au début, justement, cette femme est condamnée justement d'être là au chevet de son mari, de veiller sur lui et de prier pour le ramener à la vie, tout simplement parce qu'il ne lui reste que cet homme dans la vie et ses deux enfants très jeunes. Évidemment, cet homme est aussi son espoir. Parce que, vous savez, dans des pays comme ça, et pendant dans toutes les guerres, évidemment, les premières victimes, ce sont des femmes et des enfants. Et cette femme est une victime, elle est là, toute seule, abandonnée par sa propre famille, mais aussi par la famille de son mari. Donc, elle est condamnée, d'une certaine manière, d'être là, de prier pour amener son mari à la vie. Et le mollah aussi qui a donné ses instructions, elle doit réciter les 90 noms de Dieu pendant 99 jours. Et tous les matins, avec le chapelet, donc il doit tourner justement de 8 heures du matin jusqu'à je ne sais pas quelle heure.
Il n'y a plus d'heure.
C'est toujours le chapelet. Et puis la respiration de l'homme qui donne le rythme, et qui donne du rythme à la vie de cette femme. Voilà. Mmh. Et c'est ça. Donc, et petit à petit, au bout de 2 semaines, cette femme commence à parler d'elle-même, de son passé, de son enfance, de ses souffrances, de ce qu'elle a vécu, et petit à petit, elle prend conscience de tout ça. Et elle abandonne la prière pour parler d'elle-même et de se découvrir. Mmh. Voilà, elle se découvre. Elle découvre son corps. Et voilà,
le corps est très important dans ce livre. Il y a une citation d'Antonin Artaud en début de livre. Et puis, dans le livre, vous expliquez que le corps est révélation. C'est vraiment un livre de corps et de sang. Et c'est vrai que le corps, l'image du corps, qui est finalement révélation de souffrance, de sacrifice, de peur, est un symbole, une matière très importante.
Écoutez, oui, cette phrase d'Antonin Artaud, du corps, par le corps, avec le corps, depuis le corps et jusqu'au corps, en gros, ça décrit un peu le train narratif aussi de livre. Et puis aussi toute réflexion sur le corps. Parce que le livre aussi est divisé en 3 parties, qui est en fonction de quoi? C'est le corps. Au début, on voit le corps de cette femme et aussi le corps de cet homme comme un objet de souffrance. Ce que j'appelle le corps sacrificiel. Et vraiment, c'est le corps qu'on a vu dans les 3 religions monothéistes. Hein. C'est le corps, c'est quoi? C'est un objet. C'est un objet à détruire, un objet à rejeter. Donc ce qui est important, c'est l'âme, mais pas le corps. Mmh. Et ensuite, petit à petit, dans la deuxième partie du livre, le corps devient, lorsque la femme se livre à la prostitution, le corps devient un objet de commerce, un objet d'échange. Et puis, vers la fin, le corps de cette femme, lorsqu'elle justement découvre l'amour, lorsqu'elle elle a ce rapport avec ce jeune homme qui tombe amoureux d'elle, et elle aussi tombe amoureuse de lui. Et là, justement, le corps devient, ce n'est plus un objet de sacrifice, un objet de honte, un objet de. Le corps n'est plus non plus un objet de commerce, un objet d'échange. D'ailleurs, le corps n'est plus un objet. Le corps, c'est quoi? Le corps, ça devient sujet de révélation et sujet de se découvrir, de se révéler, de découvrir ses plaisirs, ses désirs. Voilà, le corps, oui, prend une place importante dans le monde.
Alors, Attika Harimi, certains écoutent leur corps, d'autres écoutent leur âme. Vous, pour ce livre, vous avez choisi le corps féminin. Ça, c'est assez intéressant, d'autant plus qu'il y a un an, le Goncourt passé, c'était également le cas avec Gilles Leroy, qui, lui, s'était mis dans la peau de la femme de Fitzgerald pour raconter, finalement, une autre forme de tragédie. C'était les États-Unis. Donc là, c'est l'Afghanistan ou quelque part ailleurs, n'importe quel pays en crise et en souffrance. On peut dire que, finalement, la tragédie, la définition de la tragédie varie selon l'espace et le temps.
Bah, je sais pas, la tragédie un peu pour moi, c'est partout, c'est pareil. Hein, cette tragédie, la condition humaine, malheureusement, et pendant la guerre, un peu partout, on vit la même chose, on souffre de la même manière. Hein, pour moi, toutes les guerres, malheureusement, se ressemblent. Hein, mm-hmm. Toutes les guerres. Et. Oui, là, ici, je parle justement de la femme afghane, mais je parle de cette femme comme toutes les femmes du monde. Et elle a, cette femme, comme toutes les femmes, elle a un corps, ce corps empli de désirs, de rêves, de... Voilà, Donc, c'est la tragédie, oui, pour moi, c'est la tragédie elle-même, donc c'est un peu...
Et alors, comme toutes les êtres humains, ils sont faits de corps et de sang. Vous évoquez la prostitution, vous avez évoqué l'amour. C'est vrai qu'il n'y a aucun tabou dans ce livre. Vous évoquez également la question du sang. Le sang est très important également comme symbole, avec l'éternelle question, pourquoi les hommes tirent leur fierté du sang. Il y a un passage assez révélateur qui donne des corps à cette question. C'est remplacer le sang impur par le sang de la virginité. Est-ce que c'est une idée géniale, Attika Harimi?
Je sais pas, mais justement, ça, moi personnellement, j'étais toujours, en tant qu'homme, mais je me suis toujours posé cette question, pourquoi nous les hommes, on est tant attirés par le sang? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi d'une femme nous paraît comme ça? C'est ce qu'on dit chez nous, en Afghanistan, même un peu partout ailleurs, hein, dans toutes les religions, le sang féminin, c'est toujours impur, hein, même dans la pensée grecque. Hein, on construisait vraiment à l'époque complètement une petite pièce au bord de la rivière pour que la femme, pendant la période, qu'elle se cache, qu'elle se réfugie dedans. Donc, ça, malheureusement, il y a quelque chose, oui. Donc,
C'est pour ça que vous avez choisi le corps féminin pour cette histoire.
Oui. C'est pour moi, oui, parce que j'ai parlé de la femme, tout simplement parce que, comme je vous ai dit, j'étais tellement embarrassé toujours par cette réflexion que les femmes afghanes sont de telle sorte que voilà, que j'appelle toujours sous forme d'un dive, voilà, elle est comme ça, sans caractère, sans corps, sans identité. Je dis non, cette femme, elle est comme toutes les femmes du monde, hein, c'est tout, elle a ce corps, elle a son corps, elle a des forces, des faiblesses, etc. Donc c'est et je parle aussi de ses parties intimes, de sa période intime et de ses désirs intimes. Et tout simplement parce que je crois que la femme est l'origine du monde, tout simplement. Mmh.
Alors elle se livre, elle se raconte, elle se libère aussi face à son mari, donc qui est alité, qui est un mort vivant. Il a une balle dans la nuque et finalement cette balle, c'est pas un acte héroïque, c'est pour une minable bagarre et ça, elle en veut aussi à son époux justement.
Oui, parce que ce mec-là, il était donc il s'est battu enfin dans tous les fronts donc contre justement les envahisseurs. Et ensuite, contre les partis, les autres parties enfin, de la résistance, etc. Mais par contre, ça, justement pour montrer l'absurdité de temps en temps de cet acte, donc il se bagarre d'ailleurs avec quelqu'un qui est de son propre camp, tout simplement parce que lui, il insulte. Voilà, il reçoit une balle comme ça dans la nuque. Donc c'est l'absurdité. Pour moi, c'est pas ce que voilà ce mec condamné, ce mec là, pourquoi il a fait la guerre, etc., etc. Mais simplement montrer l'absurdité de cette guerre amenée justement et de cette je sais pas de cette virilité qu'on a toujours. Voilà, il ne faut pas être insulté, etc.
D'autant plus qu'il est absent là, il est inconscient, mais on peut dire qu'il a toujours été absent dans cette histoire, dans ce mariage, puisqu'au départ, elle est fiancée, elle est mariée à un homme qui est absent. Il n'a jamais été beaucoup présent, cet homme.
Oui. Enfin, là-bas, vous savez, pendant la guerre, les hommes étaient toujours absents. Ils étaient toujours au front. Et même quand ils sont pas au front, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent dehors, ils sont avec leurs copains, leurs amis, et puis voilà, ils rentrent très tard le soir, de temps en temps complètement bourrés.
Oui, à un moment donné, vous dites, hein, il a bu, il a fumé, puis il y aura, entre guillemets, ce qu'on peut appeler un viol aussi. Donc c'est un livre assez dur, assez difficile d'en parler, mais c'est la réalité qui existe, donc elle est là. Malgré tout, il y a quand même des sources de lumière, je dirais des lueurs d'espoir. C'est pour ça que je vous ai demandé si les livres étaient des lueurs d'espoir, parce que c'est vrai qu'il y a le mari, mais heureusement, il y a le père du mari, son beau-père, qui lui est une lumière quand même pour elle. C'est lui qui l'a appris à lire, à écrire, à réfléchir, il raconte des histoires. Heureusement qu'il y a cette lumière-là.
Oui, moi je voulais pas donner justement une image complètement négative des hommes quand même. Donc je peux pas dire que voilà, tous les hommes sont des salauds. Non, d'ailleurs, la belle-mère de cette femme, par contre, elle est atroce. Donc, voilà, c'est pas dit que d'un côté ce sont des hommes complètement méchants, atroces, et puis de l'autre côté ce sont des femmes, que des anges. Non, nous sommes tous des êtres humains, nous avons tous nos forces, nos faiblesses, nous avons des bêtes féroces en nous, et nous avons aussi des anges. Donc, nous ne sommes pas faits de noir. Voilà.
Et l'autre lumière dans ce livre, c'est finalement sa tante et également, ça, c'est vraiment les deux forces de cette femme.
Oui. Là, je me suis inspiré justement d'une personne que je connaissais, donc en Afghanistan. C'était une dame magnifique, justement qu'elle était prostituée, elle habitait juste pas très loin de chez nous. Et elle était généreuse, elle était magnifique. Donc oui, j'étais... Voilà. C'était une prostituée respectueuse.
Mais c'est des mots qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, Atik Ramini. Par exemple, une prostituée à Afghanistan, pour nous, occidentaux, on a peut-être, nous, difficile à associer ces images-là.
En Afghanistan, il y a toujours des maisons closes. Il y en avait. C'est comme partout ailleurs. Hein. Il faut pas faire comme ça que l'Afghanistan, c'est complètement un pays comme lointain, complètement sur une autre planète. Nous sommes des êtres humains. Nous faisons partie de la race humaine. Voilà, c'est aussi simple que ça pour moi.
Une histoire qui a reçu pour vous le prix Goncourt 2008. Alors, il y a énormément de choses à dire, mais c'est également un livre très, très intimiste. Donc, il y aura certainement des gens qui aimeront vous poser des questions avec la signature. Avant, j'ai demandé si parmi vous, il y a certaines personnes qui voudraient poser une question. Je vais me déplacer avec le micro, comme ça tout le monde entendra la question à chaque fois. Donc, levez le doigt comme à l'école. Merci.
Bonsoir. J'aimerais vous poser une question par rapport à ce que vous avez dit au début, par rapport aux religions monothéistes et le rejet du corps de la femme. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, étant donné que j'ai voyagé dans pas mal de pays musulmans, et j'ai déjà vu des pays, dans des pays musulmans, où le corps de la femme, par exemple, n'était pas rejeté. Je connais des sociétés comme les Sasak en Indonésie ou les Touaregs, où la femme, c'est des sociétés matriarcales dans le monde musulman, où il n'y a pas de tabou par rapport à la sexualité, où il n'y a pas de tabou par rapport à la femme. Je pense que l'histoire de l'Afghanistan est une chose, mais dire que dans les religions monothéistes, il y a le rejet du corps de la femme, je ne suis pas d'accord, parce que je vois dans pas mal de pays musulmans, même d'autres pays chrétiens ou quoi, où la majorité est chrétienne ou musulmane, où le rejet du corps de la femme n'existe pas. L'histoire de l'Afghanistan est une chose, et peut-être que l'histoire de d'autres pays, de d'autres régions du monde est autre chose. Vous ne pensez pas que c'est un peu osé de dire ça ?
Bah écoutez, peut-être, bah je ne sais pas, mais moi, regardant un peu l'histoire, hein, même dans le christianisme, le corps, écoutez, ça c'est quelque chose dans la poésie, partout, la chair est toujours quelque chose. Je parle au niveau, je parle pas uniquement au niveau sociologique. C'est au niveau philosophique. Il faut que vous voyez, d'accord. C'est toujours la chair. La chair est périssable.
Je voudrais surtout vous dire que j'ai beaucoup aimé ce livre. Ce livre, d'abord le verbe, les mots, cette écriture sèche, comme ça, répétée, ce rythme, cette patience, dans toute la première partie, que j'ai failli jeter ce livre, je vais dire, parce que il n'y a rien qui vient. On attend, et puis néanmoins, on est extrêmement, on veut savoir ailleurs. Et alors, c'est moi, je vois ça un peu comme j'ai relié ça à Eros Thanatos, mais dans le sens inverse. On a d'abord Thanatos, on a d'abord le mort, le cadavre en tout cas, et puis cette efflorescence extraordinaire qui vient dans une seconde partie où c'est la vie, l'amour, où tout arrive. Et c'est un peu ma question. Est-ce que c'est exprès que vous avez commencé quelque chose d'un peu sobre et puis ouvrir dans une seconde partie, ce qui n'est pas très classique dans un livre?
Oh, oui, voilà ce que j'ai dit tout à l'heure. Justement, c'est une évolution. Justement, c'est-à-dire ce corps complètement qui était justement un corps sacrificiel, quand on parle de sacrifice, de la honte, de la destruction, etc. Et que petit à petit, donc ce corps se transforme justement, et puis à la fin, c'est la révélation, et ce corps devient justement juste la vie. Voilà, c'est l'amour. Il y avait un poète perse, justement, qui presque à la même époque que Shakespeare disait être ou ne pas être. Ma conscience me posait la question, mais c'est l'amour m'a appris que j'existais. Donc c'est justement corps, c'est quoi? C'est cette identité. Corps, c'est la vie. Enfin, c'est tout. C'est notre existence dans ce monde. Voilà, c'est un peu.
Voilà, je ne sais pas s'il y a encore des questions parmi vous, si vous voulez rencontrer en intimité notre auteur pour son très beau livre. C'est vrai que c'est un livre plein de poésie, très belle écriture. Moi, je dirais une écriture minimaliste, chirurgicale, vraiment du cous humain, je dirais, comme on peut parler de ça pour les vêtements par rapport à la grande distribution. Donc, je vous remercie d'être présent parmi nous. Je vous engage donc à venir rencontrer notre auteur qui nous fait le plaisir de rester quelques temps avec nous pour vous dédicacer ce livre. Donc n'hésitez pas, un très très beau livre, paru chez POL. Singhé Sabour, Pierre de Patience, merci Yatik Ranimi d'être parmi nous aujourd'hui.
Merci à vous.